Et puis là, il tend la main vers lui et puis il dit « Je suis ton père.
Mmh, » Passe-moi la crème.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction à la plage. Je suis ton père, quoi. C'est un truc de dingue, quand même.
T'étales bien, hein.
Vous reprendrez bien un peu de science-fiction à la plage. De nouveau cette année, l'émission de SF de Radio Évasion revêt son plus beau maillot de bain, étale bien la crème solaire et s'allonge sur sa serviette de plage pour vous présenter des émissions estivales. Petit changement toutefois, pas d'émission collégiale, mais une série d'entretiens en tête-à-tête dans une atmosphère qui se veut plus intimiste. Chaque semaine, mes invités, musiciens, auteurs ou simples passionnés de science-fiction, viendront présenter des œuvres qui les ont marquées et qui peut-être pourraient vous intéresser, histoire d'étoffer votre liste de lecture et de visionnage pour les jours qui arrivent. Alors, installez-vous confortablement dans votre transat, chaise longue ou hamac, laissez le soleil aller votre épiderme et savourez les émissions de « Vous reprendrez bien un peu de science-fiction à la plage ». Aujourd'hui, je reçois Dominique Louvel. Dominique, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Vous êtes psychologue social en libéral à Quimper.
Oui, tout à fait.
Et vous écrivez un petit peu.
Un petit peu.
Vous avez commencé à écrire plus jeune.
Oui.
Entre autres, à cause, entre guillemets, d'une histoire familiale un peu chargée.
Oui, tout à fait, oui. On commence toujours par son autobiographie, en fait.
Oui.
C'est plus facile.
Et vous avez écrit, entre autres, « Que savent les chenilles des papillons ?»
Oui, tout à fait. Un roman de science-fiction. Mmh. Alors, ce roman essaye de répondre à une question existentielle profonde, en fait. D'où nous venons-nous? Pourquoi sommes-nous là? Qu'est-ce qu'on fait? Dans quelle étagère? En fait, donc, le titre... vient d'une interrogation et du coup n'a rien à voir avec...
Ah bon?
C'est un peu surprenant, oui. Il faudrait peut-être que je le change.
Ah en non, fait, chacun fait comme il veut.
Que savent les chenilles des papillons? En fait, c'est est-ce qu'une chenille sait qu'elle va devenir un jour un papillon?
D'accord.
Est-ce qu'un papillon se souvient d'avoir été une chenille? Alors... Dans ce deuxième cas, en fait, il y a eu des expériences qui montrent que, effectivement, le papillon a des souvenirs de quand il était chenille.
D'accord.
En fait, l'expérience, c'est qu'on élève des chenilles sur une certaine plante. Et ensuite, le papillon, on voit vers quelle plante il se dirige. Et effectivement, il se dirige préférentiellement sur la plante où il a été élevé en tant que chenille.
D'accord.
Voilà. Donc là, dans cette situation-là, l'expérience est possible. Dans l'autre situation, c'est-à-dire est-ce que les chenilles savent qu'elles vont devenir des papillons, c'est impossible de faire une expérience. Du coup, on n'a pas la réponse à la question. Voilà. Et en fait, du coup, moi, j'étais partie de cette interrogation en me disant comment est-ce qu'on peut savoir si on est des chenilles ou si on est des papillons.
Ah oui, tiens. Oui.
Finalement, est-ce qu'on a eu un état antérieur, ça c'est sûr, on a été des cellules, mâles et femelles, qui se sont rencontrées un jour pour faire l'être que nous sommes. Donc peut-être qu'on a été des chenilles, peut-être qu'on est les papillons, mais peut-être que nous, en tant qu'humains, nous sommes la chenille d'autre chose.
D'accord.
Donc, en fait, dans ce bouquin, il y a trois niveaux de progression, exactement. Et donc, il y a trois histoires qui sont entremêlées. L'histoire de l'infiniment petit, l'histoire de l'infiniment grand, et nous au milieu.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est un scientifique qui construit une machine pour... communiquer avec ses cellules parce qu'il est persuadé que dans les cellules, il y a la réponse à cette question. D'où venons-nous ? Il est persuadé que les cellules communiquent. Et d'ailleurs, j'ai une petite anecdote à propos de ça. C'est qu'au moment où je m'interrogeais là-dessus, où je cherchais des éléments, en fait, pour pouvoir construire un récit logique et qui paraisse probable, en fait, c'était à la période de Noël. Donc, je vais à l'espace culturel à Quimper pour trouver des ouvrages pour mes enfants.
D'accord.
Voilà, parce que pour moi, Noël, c'est obligatoire un livre.
Oui.
Et donc, je passe au rayon un peu psycho, tout ça, histoire de voir les nouveautés.
Oui.
Et je tombe sur un livre qui s'appelle « Que pensent vos molécules ?»
Oula.
À quoi pensent vos molécules ? Et donc, c'est exactement la réponse à la question que je me posais.
Ah bah oui.
Est-ce que les molécules peuvent communiquer quelque chose ? Donc, voilà, mon scientifique, il a construit une machine pour pouvoir communiquer avec ces molécules et il est persuadé qu'il va découvrir le secret de la vie.
Oh, carrément.
Ouais, carrément. Et donc, du coup, il découvre peut-être pas le secret de la vie, mais quand même quelque chose d'assez étonnant,
oui.
Mais pas là où il pensait le trouver.
D'accord.
Voilà.
Ah.
Donc, il est parti dans une autre dimension.
Oui.
Voilà, qui lui apporte quelques réponses, mais pas toutes, hélas.
Non. Mm. Ah. Est-ce qu'un jour, on aura la réponse à toutes les questions ?
Eh bien, justement, Douglas Adams dit que ça s'est déjà produit plusieurs fois, mais qu'on ne peut pas le savoir parce qu'à chaque fois, le monde a été réinitialisé.
Oui, c'est dommage. Belle transition, parce que vous vouliez nous parler de Douglas Adams et en particulier du guide du voyageur galactique.
Exactement, c'est mon livre préféré,
oui.
C'est mon livre de chevet. Pour moi, tout est dedans.
Tout.
Le secret de la vie y est.
Entre autres.
Entre autres. Pour moi, Douglas Adams, il avait tout compris avant tout le monde.
Ah oui.
Et en fait, dans le guide du routard galactique, alors en fait, effectivement, il y avait un titre original qui était le guide du routard galactique. Mais ils se sont fait toper, en fait, quand ils ont sorti le film.
D'accord.
Ils ne pouvaient pas l'appeler ainsi parce qu'il y a déjà le guide du routard.
Voilà, le vrai, entre guillemets.
Ouais, voilà. Donc, ils auraient dû payer des droits, tout ça. Du
D'accord.
coup, c'est pour ça qu'ils ont changé en guide du voyageur galactique.
D'accord.
Et du coup, il y a tellement de choses qui étaient... Parce que ça date des années 60 quand même.
Oui, il est plutôt jeune ce livre.
Ouais. Oui, c'était des émissions de radio à la BBC.
Mm-hmm.
Voilà, et c'est comme ça que ça a commencé l'aventure. Et pourtant, on parle de tablettes.
Oui.
Puisque le guide du routard...
Oui, c'est vrai, c'est une tablette.
C'est une tablette. Ouais. On parle de... Bon, le générateur d'improbabilité,
oui.
Forcément. On parle du babelfish. Alors, le babelfish, oui. C'est le petit poisson qu'on met dans l'oreille.
Le traducteur universel.
Voilà. Et aujourd'hui, ça existe.
Oui.
On l'a inventé. Alors, c'est pas un poisson vivant, mais...
Non, c'est... Non, non.
On a inventé quelque chose comme ça. En fait, il avait tellement prévu de choses,
oui.
Plus peut-être que même Asimov dans ses robots. Il avait pourtant décliné différentes formes de robotique,
oui.
de situations avec les robots.
Tout à fait, oui.
Mais il n'était pas aussi approchant du monde d'aujourd'hui que Douglas Adams.
Oui. Est-ce que vous pourrez résumer un peu l'histoire ?
Oui, alors c'est impossible de résumer la trilogie en 5 volumes.
Oui, ça c'est beau ça aussi.
Voilà. Mais au moins le démarrage, parce qu'il y a tellement d'aventures, c'est incroyable.
Ah,
en
c'est,
fait,
c'est rocambolesque.
Hein. Ouais. Donc au début, c'est on a Arthur, Arthur Dante. Qui est un Anglais banal, voilà, et qui se réveille un beau matin avec des bulldozers devant chez lui parce que, en fait, il ne le savait pas, mais il aurait pu se renseigner à la mairie parce que c'était il y avait l'information à la mairie depuis plusieurs mois. En fait, les ouvriers doivent construire
une rocade.
Voilà, ouais, une rocade, voilà. et donc démolir sa maison.
Ah,
c'est embêtant.
C'est dommage.
Voilà, sur ces entrefaites, alors qu'il réalise à peu près la situation, il y a son ami de toujours, Ford, qui s'appelait dans la première version Ford Escort, qui ne s'appelle plus comme ça, mais bon, il s'appelle Ford toujours, voilà, qui arrive. Et donc, il lui apprend la fin du monde.
Ah.
C'est embêtant.
Oui.
Donc, il se retrouve avec ces deux informations-là. Mm-hmm. Et une troisième information improbable, c'est que son ami Ford n'est en fait pas un terrien, mais il vient d'une petite galaxie à côté de Bételgeuse.
D'accord. Voilà.
Et donc, il est un des écrivains de ce fameux guide
du voyageur galactique.
D'accord. Et il est habitué à voyager en faisant du stop.
Oui.
Mais pas du stop de voiture, du stop de vaisseau intergalactique.
D'accord.
Voilà. Et donc, commence l'aventure, parce que comme ça va être la fin de la Terre,
oui.
puisque les Vogons arrivent pour démolir la Terre, pour faire aussi encore une autre rocade.
Voilà. C'est une mise en abîme, en quelque sorte. Ouais.
C'est ça. Et du coup, ils arrivent dans ce vaisseau Vogon. Ensuite, voilà, il y a des péripéties. Parce que les Vogons, c'est quand même la race de l'univers la plus abjecte. Qui écrit la poésie. Ils ont failli mourir, d'ailleurs, à cause de la poésie vogane. Donc, et voilà, moi, je trouve tout ça extraordinaire parce qu'ils voyagent dans l'univers. Dans des planètes mais totalement improbables. Enfin, c'est pas les planètes qui sont improbables, c'est les races qui vivent sur ces planètes, comme la planète des matelas ou la planète de ceux qui ont inventé l'aérosol déodorisant pour les bras, parce qu'ils ont je sais plus combien de bras.
Oui.
Voilà. Et donc, toutes leurs péripéties, en fait, vont dans le sens de la quête du sens.
Voilà.
De tout ça.
On ne racontera pas tout parce que
c'est
très, très chargé. Il y a beaucoup de surprises et c'est loufoque.
Complètement loufoque. J'adore cette
humour. Ça, c'est assumé, c'est drôle. C'est très marrant. Une petite question. Est-ce que vous avez vu le film qui en a été tiré?
Oui, bien sûr. Oui. J'adore le film malgré qu'il est très incomplet, en fait.
Oui. C'est un début, une approche de...
Oui, mais ouais, voilà. Le personnage de Zaphod Beeblebrox, qui s'appelait originellement Zappy BBC, est formidable, quoi. Oui. Égocentrique, complètement.
Oh. Ah oui, totalement.
Et président de l'Empire Galactique, quand même. Hein.
Faut rien faire. Que ça. Eh bien, on arrive déjà au bout de l'émission. Merci beaucoup, Dominique.
Je t'en prie, je vous en prie.
Et donc, je rappelle que vous avez écrit, entre autres, « Que savent les chenilles des papillons ?» aux éditions YIL.
Oui, voilà. YIL, qui est un éditeur qui est à Sainte-Anne-la-Palue.
D'accord.
Voilà, donc pas très
loin. Ah bon, c'est local.
Oui, très local. Et donc, qui fabrique ses livres à la main.
Sérieux ?
Oui.
Oh.
Oui, il y a un petit sigle à la fin du livre.
D'accord.
Et alors, il ne les écrit pas à la main parce qu'on m'a dit une fois, bon, il recopie comme les moines. Non, il a une photocopieuse.
Ah oui.
Mais en fait, il colle, il assemble ses livres à la main.
D'accord. Ah ben, j'ai appris quelque chose.
Ouais, c'est un artisan, on peut aller le visiter à Sainte-Anne.
Très bien.
Ouais, ils sont très sympas.
Ah, merci pour l'information.
Mais je t'en prie.
À plus tard.
À plus tard.
Et voilà, c'est déjà la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre.